Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre publié par David Tesmar et Augustin Landier. 10 idées qui coulent la France est un essai d'économie politique consacré aux représentations qui structurent le débat public français. Dans un format volontairement bref et accessible, les deux économistes examinent 10 convictions qu'ils jugent trompeuses, notamment la nécessité de sauver l'industrie à tout prix, la confiance dans un état stratège omniscient ou la méfiance envers la concurrence et les marchés. Leurs propos ne consistent pas à nier les difficultés économiques françaises, mais à contester les diagnostics hérités des 30 Glorieuses qui orienteraient mal l'action publique. L'ouvrage défend l'idée d'une économie désormais largement fondée sur les services, le numérique, l'innovation et les actifs immatériels. Il relie ainsi les débats sur l'emploi, la robotisation, le financement des PME, la recherche et l'Europe à une même question: comment adapter institutions et politiques à une économie post-industrielle. Cette réédition augmentée de 2014 prolonge une intervention critique dans le débat économique français. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, sortir de la nostalgie industrielle sans abandonner la production. L'une des thèses les plus visibles du livre vise l'idée selon laquelle le redressement français dépendrait d'abord d'une réindustrialisation massive. Landier et Tesmar ne soutiennent pas que la production industrielle serait inutile, ni que les savoir-faire techniques devraient disparaître. Ils contestent plutôt l'assimilation entre poids de l'industrie, emploi et prospérité. Dans une économie développée, une part croissante de la valeur provient des services, de la conception, des logiciels, de la logistique, de la santé, de l'éducation ou du commerce. La frontière elle-même entre industrie et services devient moins nette, une entreprise productive dépend de plus en plus de données, d'ingénierie, de maintenance et de réseaux de distribution. Le problème pratique d'une politique focalisée sur les secteurs en déclin est qu'elle peut immobiliser travail, capitaux et attention publique dans la préservation d'activités peu viables. Les auteurs invitent donc à examiner les conditions de la reconversion plutôt qu'à promettre le retour d'un modèle ancien. Cette position conduit à valoriser les services à forte valeur ajoutée et les capacités exportatrices immatérielles. Elle déplace aussi le critère de réussite. Il ne s'agit pas de restaurer une structure économique passée, mais de permettre aux entreprises et aux salariés de se positionner dans les activités où se créent réellement revenus, innovation et emplois qualifiés. Deuxièmement, robotisation et emplois distingués, transformation des tâches et disparition du travail. Le livre s'attaque aux réflexes qui opposent mécaniquement robotisation et emploi. L'automatisation remplace effectivement certaines tâches, surtout celles qui sont répétitives et codifiables, et cette réalité peut fragiliser des métiers ou des territoires. Mais en déduire qu'il faudrait freiner le progrès technique revient, pour les auteurs, à ignorer la manière dont les gains de productivité transforment la demande des travail. Une industrie moderne mobilise moins de main-d'œuvre peu qualifiée qu'auparavant, tout en sollicitant davantage de compétences techniques, numériques, organisationnelles et commerciales. Le débat pertinent porte alors sur la formation, la mobilité professionnelle et l'accompagnement des transitions, non sur la protection indéfinie d'emplois dont la technologie ou la concurrence modifient les fondements. Cette analyse s'étend au rôle des ingénieurs. Les auteurs récusent l'image de l'ingénieur uniquement attaché à l'usine et soulignent l'utilité des compétences techniques dans les services, les médias, la publicité, les jeux et les activités numériques. L'enjeu est de diffuser les capacités d'innover au-delà des filières industrielles traditionnelles. Leur raisonnement ne garantit pas que chaque transition sera socialement indolore. Ils rappellent toutefois qu'une politique de l'emploi crédible doit préparer les personnes aux tâches nouvelles, plutôt que confondre protection de court terme et stratégie durable. Troisièmement, limiter le dessein intelligent de l'État et le capitalisme de subvention. Une autre cible centrale est la croyance dans un État capable d'identifier seul les secteurs gagnants, de préserver la croissance et de corriger toute difficulté économique par les interventions directes. Les auteurs ne plaident pas pour l'effacement de la puissance publique, ils critiquent plutôt l'extension de ses promesses et les effets d'un soutien trop sélectif aux entreprises ou aux activités établies. Lorsqu'une autorité publique finance durablement des intérêts particuliers sans évaluation claire de l'utilité collective, elle risque de favoriser le maintien de rentes, la proximité entre décideurs politiques et économiques, ainsi qu'une allocation inefficace des ressources. Est-ce que le livre désigne par le capitalisme des subventions ? La critique est institutionnelle autant qu'idéologique, plus l'État se présente comme responsable de tous les résultats, plus il devient exposé à des demandes sectorielles et à des arbitrages opaques. Landier et Tesmar proposent de recentrer l'action publique sur la production de règles stables et de biens collectifs. Cela inclut un cadre juridique prévisible, des incitations cohérentes pour l'investissement, ainsi que des interventions justifiées lorsque l'intérêt privé ne suffit pas à produire un bénéfice social. Cette perspective accorde notamment de l'importance à la recherche fondamentale et à l'environnement entrepreneurial. Elle demande donc moins un État absent qu'un État plus sélectif dans ses objectifs, plus transparent dans ses choix et moins captif de la nostalgie économique. Quatrièmement, concurrence et marché dépassaient les explications commodes par le court terme. Les auteurs interrogent la représentation des marchés comme une force exclusivement obsédée par le court terme et opposée à l'investissement. Cette critique ne revient pas à présenter les marchés financiers comme infaillibles. Elle vise l'usage politique d'une explication simplificatrice qui attribue les faiblesses françaises à une pression externe, tout en évitant de discuter la qualité de la gouvernance, les mécanismes de financement ou la protection des positions acquises. Dans cette logique, la concurrence est souvent perçue comme une menace à contenir, alors qu'elle peut aussi révéler les coûts de privilèges sectoriels supportés par les usagers et les consommateurs. Le livre insiste sur un point concret : les entreprises, particulièrement les PME, ont besoin d'un accès crédible au financement pour investir, innover et grandir. Or, cet accès dépend non seulement des capitaux disponibles, mais aussi de règles qui permettent d'évaluer le risque et de traiter l'échec sans le rendre paralysant. Les auteurs relient ainsi le financement des PME à la nécessité de moderniser le droit des faillites. Un système qui sanctionne excessivement l'échec peut décourager prêteurs et entrepreneurs et préserver artificiellement des structures peu productives. Leur analyse privilégie donc une économie où la concurrence est encadrée, où la prise de risque est possible et où les procédures d'insolvabilité facilitent davantage la réallocation des ressources. En dernier lieu, Europe et gouvernance mondiale refusaient les remèdes institutionnels automatiques. Parmi les idées discutées figure l'affirmation selon laquelle davantage d'Europe constituerait, par elle-même, la réponse à la crise et l'espoir qu'une meilleure gouvernance mondiale résoudrait les déséquilibres économiques. Landier et Tesmar ne formulent pas un rejet de principe de la coopération européenne ou internationale. Leur cible est le réflexe qui transforme une question institutionnelle complexe en solution automatique. Une intégration plus poussée n'est pas efficace par nature, elle suppose des règles opérationnelles, des responsabilités identifiables et une capacité réelle à concilier des intérêts nationaux parfois divergents. La crise des dettes souveraines a mis en évidence, dans le contexte du livre, les limites d'une solidarité qui ne s'accompagne pas toujours d'instruments communs suffisamment cohérents. Le même raisonnement vaut pour la gouvernance mondiale. Appelée à une coordination internationale peut être nécessaire face à certains enjeux. Mais cet appel ne dispense pas de définir les engagements concrets, les mécanismes de décision et les compromis acceptables. Cette partie du livre complète sa critique des mythes nationaux. La France ne se libérerait pas de ses problèmes en transférant abstraitement leur résolution à Bruxelles ou à des instances mondiales. Les auteurs invitent à juger les institutions par leurs incitations et leurs capacités d'exécution. Le bénéfice intellectuel de cette approche est de distinguer l'objectif souhaitable de coopération du slogan qui évite de traiter les réformes internes nécessaires. En conclusion, 10 idées qui coulent la France s'adressent aux lecteurs qui souhaitent comprendre les présupposés du débat économique français sans entrer dans un traité technique. Citoyens attentifs aux politiques publiques, étudiants, responsables d'entreprise et décideurs y trouveront une grille de lecture concise pour interroger des formules devenues familières : sauver l'industrie, protéger l'emploi, relancer par la subvention ou attendre une solution européenne. Son apport pratique est de replacer ces formules devant des questions de mécanisme : quels emplois une politique préserve-t-elle réellement ? Quelles incitations crée une subvention ? Comment financer la croissance des PME ? Et quelles compétences faut-il développer dans une économie numérisée ? Son apport intellectuel tient à l'effort de dissocier les faits économiques des réflexes hérités d'une vision industrielle et centralisée de la prospérité. Par rapport à de nombreux essais sur le déclin français, l'ouvrage se distingue moins par la promesse d'un plan exhaustif que par son travail de démystification ciblée. Son ton polémique et sa brièveté rendent les thèses facilement discutables, ce qui est aussi une limite. Certaines propositions demanderaient des développements empiriques et institutionnels plus longs. Mais cette concision sert son objectif principal. Le livre fournit un point de départ clair pour examiner les arbitrages entre reconversion, innovation, concurrence, intervention publique et coopération européenne, sans confondre diagnostic économique et nostalgie politique. Si vous souhaitez soutenir David Tesmar, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !